Oh, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour apporter un message qui me tient à cœur. Alors qu'on a terminé durant l'été, on a découvert Jésus au travers de l'évangile de Jean, le quatrième évangile dans le Nouveau Testament. Et on a découvert que Jésus était incroyable, non pas seulement un bon homme de morale ou un prophète comme certains dans notre société essayent de le dire, quelqu'un qui a amené une bonne morale. Non, on a vu que Jésus était le Fils de Dieu, que Dieu avait envoyé par amour pour l'humanité, son Fils, pour que lui vive une vie ici parfaite en tout, en péchant en rien, tenté en toute chose comme nous pour nous comprendre. Et à la croix, il a donné sa vie pour nous offrir la réconciliation avec Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Et alors qu'il est mort sur la croix, 3 jours après, il est ressuscité. La mort n'avait plus aucun pouvoir sur Jésus. Et Jésus nous a dit à nous qui le reconnaissons comme le Sauveur et le Seigneur, la mort ne pourra pas vous retenir, vous non plus, sur cette terre, parce que votre esprit sera avec lui à tout jamais quand la mort viendra nous chercher ici. Et c'est ça l'espérance que nous avons en tant que chrétiens. Découvrir Jésus, c'est découvrir que lorsque Jésus est quelque part, il se passe toujours des miracles. Est-ce que vous le savez? Est-ce que ceux qui l'ont vécu ici peuvent dire peut-être aux gens autour de vous, je ne peux pas vous passer le micro à chacun, vous auriez tous des témoignages, mais est-ce qu'on pourrait applaudir tous ceux qui l'ont vécu, applaudir Jésus qui a changé nos vies et qui fait que nous sommes la lumière du monde aujourd'hui? Et alors qu'on a vu ensemble, et puis vous avez relevé le défi, beaucoup ont lu l'évangile de Jean pendant l'été, découvert un évangile incroyable qui montre l'amour de Dieu pour l'humanité, que Jésus n'était pas là pour condamner, mais pour sauver l'humanité. Et alors qu'on termine l'évangile de Jean, on l'a terminé la semaine dernière, aujourd'hui j'aimerais qu'on regarde ensemble au premier chapitre qui suit l'évangile de Jean, qui se trouve dans, en fait, le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres est incroyable parce que c'est là où on voit que l'Église, la naissance de l'Église, le début de l'Église, Jésus, quand il était ici sur cette terre, n'a pas créé une Église, il n'a pas créé une institution. Il a annoncé la bonne nouvelle, il a formé des disciples et il leur a, à eux, donné une mission de bâtir l'Église. Il leur a, entre guillemets, donné les clés de dire, maintenant, moi je m'en vais, le Saint-Esprit va venir, il va être avec vous et vous aurez une puissance. Mais vous allez vous bâtir l'Église qui va représenter mon nom partout sur la terre. Et on est aujourd'hui, 2000 ans après, à vivre encore la même image que Jésus avait pour l'Église, un rassemblement de chrétiens qui viennent ici, qui proclament la bonne nouvelle de l'Évangile, que la liberté est en Christ, qui célèbrent Dieu avec l'adoration passionnée. Il y a quelque chose de fort qui se passe. Et j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui dans le livre des Actes comment l'Église a fait pour être un groupement de chrétiens, de quelques dizaines, quelques centaines de chrétiens, à devenir un mouvement mondial de plusieurs milliards de personnes dans les 2000 dernières années. Et encore aujourd'hui, on croit que l'Église n'est pas seulement quelque chose d'institutionnel. Non, c'est un corps qui avance, qui est vivant, parce que si Dieu est ici, le corps avance. Est-ce que vous êtes d'accord? On croit réellement que l'Église que nous faisons le dimanche matin n'est pas seulement un rituel religieux qu'on fait pour se sentir bien dans la semaine. Non, c'est quelque chose de fort que Dieu nous a demandé de faire. Il a institué dans la parole de Dieu. Et le livre des Actes nous montre un petit peu comment l'Église a fait pour devenir une croissance exponentielle. L'Église a commencé quand les disciples ont compris qu'il ne fallait pas juste suivre Jésus, mais qu'il fallait commencer à le représenter et l'annoncer partout. Alors que Jésus avait été crucifié, tous les disciples étaient complètement troublés. Il y a beaucoup qui ont douté, comme on l'avait vu dans les dernières semaines. Il y a eu du chaos. Mais lorsque Jésus est ressuscité et qu'il est venu devant eux et qu'il leur a donné une mission de le représenter, alors il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Et on va regarder dans le livre des Actes, en ce moment, combien la croissance de l'Église a été exponentielle, jusqu'à arriver au jour de la Pentecôte, donc 50 jours après l'ascension de Jésus, le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit a été donné à l'Église, et là, il y a eu quelque chose d'incroyable. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? On voit la croissance exponentielle de l'Église, et ce qui est incroyable, c'est que si on veut suivre le modèle biblique de l'Église, de voir une Église qui grandit, une Église qui avance, qui se développe. On veut tous ça, n'est-ce pas? On voit la semaine dernière, je pense à Nouvelle Vie Châteauguay, ils étaient plus de 250 dans le bâtiment. Il y avait des baptêmes, c'était quelque chose d'incroyable. Ils ne savaient plus où mettre les gens tellement il y en avait du monde. Dans une Église en 2022, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, oh, comment ça se fait? On voit que l'Église avance et que partout dans le monde, je crois que le Québec a besoin de plus d'églises locales. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de proclamer l'Évangile parce que les gens, en fait, sans le savoir, recherchent ce qui se trouve en Jésus. Et c'est l'Église locale qui est l'espoir du monde. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous proclamons ici la réponse à tous les problèmes de l'humanité. Alors si vous voulez, comme moi, que l'Église continue de grandir, vous savez c'est quoi la mission de Dieu ? La vision de Dieu pour l'Église, pour qu'elle puisse continuer de grandir, c'est qu'en fait, en même temps qu'elle grandisse, elle doit également rétrécir. Vous allez me dire, c'est paradoxal, non ? C'est le titre de mon message, et je vais vous choquer un peu ce matin. Voici pourquoi l'Église doit rétrécir. Pour qu'elle continue de grandir, et je vous le dis, hein, ma femme a eu la même réaction que vous quand je lui ai dit mon titre cette semaine. Elle m'a dit, as-tu ton titre pour les réseaux sociaux, pour qu'on fasse les visuels ? J'ai dit oui, l'Église, voici pourquoi l'Église doit rétrécir. Et sa seule réponse a été un point d'interrogation. Comme, es-tu certain ? Est-ce que ça va bien, Ben ? Est-ce que tu veux prendre quelques jours de congé ? Je suis pas en train de dire, non, il faut qu'on vide l'Église, au contraire. On est à 2 réunions en ce moment, il y a plus de 600 personnes à Nouvelle-Ville-la-Prairie, 150 enfants, les familles qui reviennent, des gens qui arrivent ici, qui se disent, j'ai jamais été à l'Église, je fuyais la foi, et quand je suis arrivé ici, il y a une maison de refuge, il y a eu quelque chose de fort, je trouve une famille, je me sens pas jugé, au contraire, je me sens encouragé à m'approcher de Dieu, un Dieu qui m'aime, et un Dieu qui voit combien je suis fauté, mais alors que j'avance vers lui, c'est lui qui me rend plus saint. C'est ça qu'on veut vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on veut voir encore plus de monde dans ce lieu? Et encore plus d'église? Est-ce que je peux entendre un amen et un applaudissement, parce que Dieu n'a pas fini de bâtir son Église. Mais alors que l'Église doit grandir, l'Église doit également rétrécir en même temps. L'idée de Dieu pour l'Église, c'est un miracle pour l'humanité réellement. C'est un lieu de célébration où notre foi est proclamée. C'est un lieu d'adoration où on vient ensemble remercier Dieu pour sa grâce et son amour. C'est un lieu de refuge pour des gens qui sont blessés par la vie. C'est un lieu d'encouragement, où peu importe comment tu rentres ici, tu ressors en disant, il y a quelqu'un qui me comprend, il y a quelqu'un qui me juge pas et qui me pousse à aller en avant. C'est un lieu où de la découverte de Dieu, peu importe d'où tu viens, peu importe ton bagage, peu importe qui tu penses être loin de Dieu, c'est un lieu ici où on vient découvrir Dieu à chaque semaine. C'est un lieu du retour à la source pour beaucoup qui ont été blessés par des institutions ou par des gens qui se pensaient être chrétiens, mais en fait faisaient complètement le contraire de ce que Dieu voulait. C'est un lieu de refuge, un lieu, un hôpital, une école, une maison. Et l'Église doit continuer de grandir. Je crois aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant de chrétiens sur la surface de la terre qu'en ce moment. Même dans les pays les plus persécutés, l'Église grandit de manière souterraine. C'est incroyable ce que Dieu fait en ce moment. Et je crois que l'Église Nouvelle Vie est une église maintenant multisite à 7 sites. Je crois que peut-être dans quelques années, on sera à une dizaine, vingtaine de sites. Et je crois qu'on n'aura jamais fini de peupler le Québec, parce que le monde et chaque ville du Québec a besoin d'entendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et on veut bâtir cette église, on veut continuer de la bâtir, ça fait près de 30 ans qu'elle existe, l'église Nouvelle Vie. On veut continuer de le faire selon le modèle biblique. Et voici ce que le modèle biblique dit. Acte 1, 5, voici comment l'église a commencé. À cette époque-là, le nombre des personnes réunies était d'environ 120. 120 personnes qui étaient là au début de l'église. Une poignée de personnes. Voici comment elle grandit. Voici dans les 6 premiers chapitres des Actes, voici ce qui se passe. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ça, c'était le jour de la Pentecôte. Donc, l'un des premiers jours de l'église, quand elle se réunit, tout de suite, c'est une méga church. Donc déjà, quand on voit le côté, petite église, grande église, regarde, le jour de la Pentecôte, dans la ville de Jérusalem, 3 personnes se convertissent. Ça fait beaucoup de monde. Et là, il a commencé à avoir quelque chose d'incroyable, parce que les chrétiens commençaient à témoigner, commençaient à voir que le Saint-Esprit était en eux, et alors qu'ils reconnaissaient Jésus comme sauveur et seigneur, même s'ils étaient juifs, ou peu importe leur background, ils étaient transformés, et leur parole amenait une transformation dans la vie des autres. Alors là, ça continuait, acte 4:4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. À cette époque-là, ils ne comptaient que les hommes, donc les femmes et les enfants n'étaient pas comptés dans les calculs. Mais ça veut dire qu'au moins, il y avait 15 000 personnes à ce moment-là. Donc, en quelques semaines, en quelques jours, en quelques mois, l'Église était de niveau de dizaines de milliers de personnes dans une même ville. Acte 5:15, acte 5:14. De plus, des multitudes d'hommes et de femmes, et ceux qui croyaient au Seigneur, étaient ajoutés à l'Église. Au début, on voit qu'il y a une addition. Là, en ce moment, on dit qu'il y a une multitude. On les compte même plus, ça se multiplie trop. Il y a quelque chose d'incroyable. Acte 6:1, le dernier texte. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, on voit que le nombre des disciples en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, l'Église de Jérusalem est passée de 120 personnes, 120 disciples qui suivaient Jésus, à une multitude qui se multipliait. Il y a quelque chose que Dieu veut, que son Église grandisse comme incroyable. Et je crois que c'est pas seulement pour Jérusalem, je crois que c'est pour la prairie. Je pense que c'est pour le Québec, pour la francophonie. Est-ce que vous le croyez? On est dans une des régions les plus compliquées à évangéliser dans l'Amérique complète, là. Nord, centrale et sud. C'est incroyable le niveau de difficulté qu'on a à annoncer l'évangile. Et vous savez quoi? Au plus il y a de ténèbres spirituelles, au plus la lumière de Christ brille fort. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui étaient tellement loin au dernier baptême. Il y avait des gens qui témoignaient en disant, moi, j'étais dans l'occultisme. J'ai tout essayé. Tout ce que tu peux imaginer de spirituel, je l'ai essayé. Mais quand j'ai rencontré Christ, il n'y a plus rien qui faisait face. Il n'y avait même pas de concurrence. Christ était de la liberté. Il ne me donnait pas juste un semblant de bien-être. C'était lui qui était ma vie. Il y avait quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est le Jésus que nous voulons proclamer ici. Alors, peu importe comment tu es venu ce matin, je te le dis, je suis en forme aujourd'hui pour te proclamer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et tu as besoin d'être en lui et d'être dans sa maison. Est-ce que je peux entendre un amen? Et pour que l'Église continue de grandir, Dieu a choisi de la faire rétrécir en même temps. Il a choisi que l'Église, et on va le lire dans Actes 2, 41, 47, au plus elle grandissait, elle devenait une méga church, au plus elle devait continuer de rétrécir en même temps. Lisons le texte ensemble, on regarde. Actes 2, 41, 47. C'était le jour de la Pentecôte. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Et à ce moment-là, voici comment ça s'est mis en place, cette église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est incroyable parce qu'on voit que dès les premiers jours où l'Église est instituée, entre guillemets, où les apôtres prennent le côté où maintenant il faut qu'on proclame. Jésus est parti nous préparer une place au Père. Le Saint-Esprit nous a été donné à nous de prendre notre mission et de bâtir l'Église. Jésus bâtit son Église, mais il le fait en partenariat avec des hommes et des femmes. Imparfaits, mais tellement nous faisons confiance à un Dieu qui est parfait. La mission de l'Église est incroyablement belle. Est-ce que vous le savez? Vous ne trouverez jamais une église parfaite, parce que l'église est aussi parfaite que les gens qui la composent. Alors si vous critiquez l'église, mettez-vous les doigts comme ça. Parce qu'il y a un côté où nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons avancer toujours comme Dieu le veut pour nous. Alors, il veut qu'elle grandisse, mais en même temps, il veut qu'elle rétrécisse. Et on va voir 4 points aujourd'hui. Voici pourquoi l'église doit rétrécir. Le premier point, pour que tu sois bien entouré. En fait, au plus on vient les dimanches matin, au plus, il y a un large groupe de célébrations. Et je crois que on sera jamais trop dans une église. Il y a des gens, des débats. Ah, mais à combien de noms maximum il faut des églises? Est-ce que les méga church ou est-ce que c'est plus des petites églises qu'il faut aller? En fait, je vous le dis, on sera jamais trop nombreux pour célébrer en large. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on se retrouve en petit nombre pour communier. Et je crois à l'église des premiers temps dans Actes. Il y a vraiment un équilibre entre la grande célébration ensemble et la communion en petit groupe. Et le petit groupe, en fait, le groupe maison, est l'idée de Dieu pour que l'Église grandisse, mais elle rétrécisse en même temps pour qu'elle se développe encore plus. Si vous prenez juste la grande célébration seule, l'Église n'avance pas autant. Si vous prenez juste les groupes maison seuls, sans les grandes célébrations, elles n'avancent pas ensemble. Les deux étaient au temple et dans les maisons. On le voit, hein, des larges groupes de célébration au temple, tout le monde allait à ce moment-là. Ils se donnaient rendez-vous dans la cour du temple. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple, mais ils étaient dans la cour du temple. Et là, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui pouvaient être réunies là. Donc, il y avait plusieurs milliers de personnes qui se retrouvaient pour célébrer Dieu à ce moment-là, dans chaque jour. Mais aussi, ils allaient dans les maisons et ils rompaient le pain, ils priaient ensemble, ils questionnaient la parole de Dieu, ils avançaient ensemble. Les deux étaient d'un commun accord. Voici pourquoi l'Église doit rétrécir pour que tu sois bien entouré. Verset 42 disait, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Pour que tu sois bien entouré, il faut que tu sois connu et reconnu. Je vous le dis, on essaye d'être le plus proactif ici à l'église avec tout le staff. On essaye d'essayer de connaître tout le monde, de reconnaître, d'essayer de connaître même les prénoms de tout le monde. On essaye vraiment, vous l'avez vu. Mais juste en quelques semaines, on a vu plus d'une centaine de personnes commencer à venir, à revenir. Il y a beaucoup de monde nouveau ici. Ça serait impossible pour nous, même si on est une église de 600 personnes, donc 300 et 300. Même une église de 300, on pourrait pas dire c'est une méga church. Mais même déjà là, c'est impossible pour nous de connaître tout le monde. Vous êtes d'accord? À part si vous êtes vraiment un génie de la mémorisation et tout ça. Mais il y a quelque chose de fort parce que ici, on veut être le plus proactif pour qu'on puisse communier ensemble. Mais ça prend une large célébration ensemble le dimanche, mais également de se retrouver en groupe la semaine. Il persévérait dans la communion fraternelle. Est-ce qu'ici, tu pourrais si tu te lèves et que je te dis, OK, voici, dis-moi le prénom de cette dame, dis-moi le prénom de cet homme, dis-moi combien il y a d'enfants. Est-ce que tu pourrais répondre à toutes ces questions? Non. Par contre, si tu es dans un groupe de 7, 8, 10 personnes, tu es capable de le faire, j'espère. Si tu viens d'arriver hier, bon, je te laisse 2 semaines. Mais à un moment donné, quand tu marches avec des gens, semaine après semaine, tu es capable de connaître leur vie. Tu es connu et reconnu. Vous savez, on peut être entouré de beaucoup de personnes, mais pas être connu ni reconnu. Et je vous le dis, ça arrive pas seulement dans les méga churches, on est perdu dans la foule. Non. Les statistiques le montrent. Dans une église de centaines de personnes, 100 personnes, seulement 100 personnes, on pourrait dire, tu peux être perdu dans la foule. Donc, il ne faut pas croire que le stéréotype d'une grande église de plusieurs centaines de personnes ou milliers de personnes, ça y est, ça c'est une grande église, on est perdu dans la foule. Non, pas du tout. Quelqu'un, un jour, j'avais fait une conférence et avant d'apporter le message, il m'avait posé des questions. Puis c'était des questions parfois drôles, parfois sarcastiques. Et puis à un moment donné, ils me disent, Pasteur Ben, qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous préférez les grandes églises ou les petites églises? C'est comme une question piège, en fait. Okay? Puis tu veux froisser personne, tu veux pas dire, ah ouais, les grandes églises, parce que toutes les petites églises ont dit, oh, et tu veux pas dire les petites églises, parce qu'en plus, on vient d'une grande église. Donc, il y a un côté, un peu un piège, puis je dis non, en fait. Je crois que le modèle de Dieu est vraiment une grande église qui s'est restée petite. Et on croit réellement à Nouvelle Vie depuis des années, depuis le début, que le modèle biblique est une grande église qui proclame, qui est une vitrine de l'évangile, de voici ce que Jésus fait. Voici, regardez le nombre de personnes qui ont un témoignage. Voici quand on baptise du monde, qu'il y a des gens qui sont arrivés ici par des centaines. Ils disent, wow, vous avez tous le même témoignage, la même rencontre avec ce Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? On pensait que vous étiez tout seul et on pensait qu'au Québec, il n'y avait même pas d'église. Toutes les églises se vident. Non, 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 il y a des églises qui se remplissent en ce moment. Il y a besoin d'avoir un large groupe de célébrations. Mais il y a besoin d'un petit groupe pour avancer, être connu et reconnu. Tu ne pourras pas l'être dans la grande église, il faudra que tu le sois dans le groupe. Il faut que tu sois lié d'amitié avec des gens, c'est nécessaire. Encore aujourd'hui, plus que jamais. On sort de 2 années où c'était difficile, les relations sociales, et je crois qu'aujourd'hui, notre âme recherche le côté où on doit être avec des gens, on doit connaître, on doit grandir dans l'amitié. Il y a 2 mois, j'ai fait un message sur l'amitié. Et le nombre de témoignages que j'ai entendus de gens qui disent « Oui, j'ai besoin d'amis en ce moment. Je pensais être bien entouré, mais j'ai besoin d'amis. » Les amis que tu cherches sont ici dans l'église locale. Il faut vraiment que nous puissions dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous ?» Le dimanche matin, on vient et on célèbre. Et réellement, je crois que Dieu a des plans incroyables pour cet automne. Encore plus de monde qui va venir ici, qui va proclamer la gloire de Dieu. Mais je crois que nous avons autant besoin de grandir ici que de rétrécir et d'aller dans les groupes. Qui te connaît vraiment ici? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te connaître, te reconnaître, te questionner? Comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que quand tu ne viens pas un dimanche, est-ce que des gens t'appellent la semaine en disant « Hey, mais je t'ai pas vu ce dimanche ». Ça ne se ferait pas dans un groupe. Si pendant 3 semaines, la personne ne vient pas, à un moment donné, elle a appelé en disant « Hey, est-ce que ça va? Comment vas-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi ?» Tu dois être connu et reconnu. Et au plus l'église est grande, au plus tu peux te perdre dans la foule. Mais dans le groupe, tu restes connu et reconnu. Les liens d'amitié sont là et c'est important. La camaraderie. Alors que je suis tombé sur une vidéo, demandez-moi pas pourquoi, comment. Je suis tombé sur une vidéo où il y avait 2 hommes, tu peux mettre la photo, 2 hommes qui discutaient. Et ce sont des hommes qui, en fait, ils ont gagné à la loterie. C'est pour ça que je vais pas chercher ces vidéos-là sur Internet, ça pop devant moi. Et puis c'était comme discussion entre 2 personnes qui ont gagné des millions à la loterie. Et c'était incroyable parce que c'était comme 5-6 minutes de vidéo. Et puis je regardais ça, j'écoutais, je ne joue pas à la loterie. Mais ça m'intriguait, OK? Des fois, tu as un jour de congé, tu regardes des vidéos, tu te dis, pourquoi je regarde ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Ne me regardez pas comme des pharisiens qui disent comme, ah ouais, tu regardes YouTube. On a tous regardé les gars qui creusent des tunnels dans, OK? Vous êtes avec moi? Bref. En plus, c'est un fake. Mais bref. Et alors que je regardais cette vidéo, quelque chose de fort parce qu'ils disaient, ça a changé quoi la loterie? Alors le monde, ah ouais, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, j'ai un yacht, nanana. Puis ils racontaient un petit peu, voilà, toutes les extravagances. Puis à un moment donné, il y a une question qui disait, mais qu'est-ce que la loterie a changé pour vous, mais que vous regrettiez? Puis là, je suis comme, oh, c'est intéressant ça. Puis je savais pas ce qu'ils allaient dire. Et l'homme à la gauche, il a gagné 6 millions de livres sterling. Donc ça fait, je pense, ça doit faire plus de 8 millions ou 10 millions de dollars canadiens. Il dit ce qui me manque maintenant, ce qui a changé depuis ce moment-là, c'est la camaraderie. Il dit, quand je vais au travail, parce qu'il n'a pas arrêté de travailler, il dit, quand je me pose dans la salle de pause avec tous les autres collègues, c'est plus comme avant. Avant, on rigolait normalement, on parlait de tout et de rien, et puis c'était vraiment un côté où on s'encourageait, on riait très, très naïvement, très, très, très simplement. Aujourd'hui, les gens rigolent pas de la même manière avec moi. Et leurs discussions sont comme toujours un petit peu influencées. Soit je les impressionne trop, alors ils veulent plus me parler. Soit je les impressionne pas et puis ils veulent me demander de l'argent. Et il dit ce qui me manque vraiment, c'est le côté de la simplicité de me tenir avec des gens autour de la pause café et puis de rigoler avec eux. Waouh! Beaucoup de gens dans notre société voudraient leur vie en disant, waouh, t'as vu, t'imagines, tu devrais être accompli. Mais lui, ce qu'il dit, c'est, il veut votre vie. Il veut le lundi matin à 10h pendant la pause et puis que tout le monde dit « qu'est-ce que t'as fait hier ?» Et puis naturellement, le côté de la camaraderie. Les gens, quand on voit qu'ils ne peuvent plus avoir ce qu'ils prenaient pour acquis, c'est ça qu'ils recherchent. C'est fou parce qu'il y a quelque chose de fort lorsqu'on se rencontre en groupe. Pasteur Jacques et Hélène sont les responsables des groupes Nouvelle Vie pour plus de 160 groupes, je pense, sur cette session. C'est incroyable le niveau d'explosion que les groupes ont fait. Ils ont des témoignages chaque semaine. Il y a quelque chose de fort quand des amitiés prennent place, des gens viennent, se soutiennent les uns les autres. Il y a quelque chose de fort quand tu es connu et reconnu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le texte nous dit, verset 46, « Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Est-ce que tu as des gens en ce moment avec qui tu peux t'asseoir et prendre un repas? Est-ce que tu as des gens avec qui tu peux ouvrir le repas du Seigneur, le pain de vie, puis regarder avec eux comment Dieu peut te parler? Est-ce que tu as en ce moment quelque chose où tu es avec joie et simplicité de cœur? Ou est-ce qu'en ce moment, il te manque ça dans ta vie? Dieu veut que l'Église grandisse, mais pour ça, il faut qu'elle rétrécisse pour toi. Le deuxième point qu'on voit aujourd'hui, pourquoi l'Église doit rétrécir, c'est pour que tu puisses poser tes questions. C'est difficile chaque dimanche matin, alors qu'on se pose ici sur la plateforme et qu'on annonce l'Évangile. C'est difficile pour quelqu'un de lever la main en disant, « Hey, pasteur, j'ai une question. » C'est pas que c'est difficile, c'est que ça se ferait pas. Ok, vous avez compris. Ça serait difficile qu'on puisse répondre à chaque question ici. Et bien qu'on veut être les plus proches de vous, à chaque fois à la terrasse, on a des belles discussions. C'est impossible de répondre à toutes les questions de chaque chrétien. Et j'espère que vous vous en posez, parce que vous voulez grandir, vous voulez apprendre. Vous avez lu quelque chose la semaine, puis vous voulez grandir dans votre connaissance avec Dieu. Est-ce que vous vous posez encore des questions? J'espère, hein. Alors, il faut que vous puissiez avoir des gens qui répondent à ces questions. Et le groupe est le moyen le plus efficace pour que des gens puissent répondre à vos questions. Des gens qui sont là pour vous aider à approfondir votre marche spirituelle. Verset 42 encore dit, « Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. » Qui sont les personnes par lesquelles Dieu veut te répondre, veut répondre à tes questions? Mais malheureusement, tu veux marcher seul. Trop de chrétiens disent, « Oh, moi, j'ai pas besoin ou j'ai pas le temps, ou donc je marche seul. » Mais le long du chemin, tu te poses des questions, tu vis des choses et Dieu a la réponse pour ça, mais tu rates les personnes qu'il a envoyées pour toi. Plusieurs fois dans la parole, on voit que Dieu veut se servir de l'humanité pour parler à l'humanité. Jésus pouvait faire le travail tout seul, mais il a choisi 12 personnes avec lesquelles faire. Il a choisi des disciples pour que eux puissent ensuite se multiplier. Et vous savez, si tu attends juste la réponse d'en haut, je crois que Dieu se révèle, oui, par le Saint-Esprit, par la parole. Oui, personnellement, il peut te révéler des choses, c'est certain. Mais je crois qu'il y a une dimension de la révélation de Dieu qui n'est disponible que quand nous sommes assemblés ensemble. Oui, des fois le dimanche matin, et j'espère que le message vous parle au travers de l'Évangile qu'on proclame ici, mais également dans les groupes, il y a des révélations que Dieu donne quand le peuple est rassemblé et quand le peuple est assemblé en petits groupes. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Il y a quelque chose de fort parce que l'Église doit grandir, mais pour que l'Église grandisse, l'Église doit rétrécir. Des gens qui répondent à tes questions. Quelqu'un qui peut te comprendre. Et à chaque fois, hein, je le dis parce que à chaque saison, il y a des gens nouveaux qui viennent nous voir en disant, en ce moment, j'ai des problèmes avec mon couple, ou alors j'ai des problèmes avec mes enfants et tout ça. Et ils cherchent des réponses parce qu'ils n'ont pas personne qui les comprend autour d'eux. Combien de fois j'entends des gens qui disent, ah, j'ai été voir quelqu'un, même des professionnels, parce que j'avais des problèmes avec mon mariage. Et l'un des premiers conseils, c'était, vous savez, La vie est parfois difficile, des fois, mais c'est un perdu, 10 de retrouver. Même des professionnels qui sont censés t'aider, t'encourager, te soutenir dans un côté, hey, tu vis quelque chose de difficile, on va combattre avec toi pour que tu puisses sortir de là et puis que ton couple en ressorte guéri. Des fois, c'est abandonne, il y a quelque chose d'autre. Perds pas ta vie là-dessus, tu sais. C'est pas le plan de Dieu. Dieu est celui qui est le créateur, mais il est aussi celui qui est le réparateur. Et je crois que dans sa parole, par des petits groupes, des gens qui ont déjà vécu le côté où, hey, moi aussi, je suis passé par là. Et voici ce qu'on va faire ensemble. Voici comment on va se soutenir pour que tu puisses sortir de là et que ton couple soit plus victorieux et encore plus fort qu'avant. Est-ce que vous croyez que Dieu change le mal en bien, les situations difficiles en situations victorieuses? Est-ce qu'on peut applaudir Dieu qui est avec nous et qui prend soin de nous? Est-ce que tu as des personnes autour de toi qui peuvent te comprendre, qui peuvent t'encourager dans la bonne vision? J'ai ri cette semaine alors que je regardais sur un compte social, c'est pas un photographe, mais c'est quelqu'un qui fait des retouches photos gratuitement sur Internet. Il s'appelle James Friedman. Et sur les réseaux sociaux, les gens lui envoient des photos qui ont besoin d'être retouchées et lui leur renvoie la photo modifiée. Mais c'est vraiment pas comme les gens l'attendent. Alors voici un exemple de quelqu'un, tu donnes ton problème, mais il comprend pas ton point. Voici ce qui est dit marqué. James, salut James, peux-tu enlever le filigrane qui est sur la photo? Merci. Voici ce qu'il lui envoie. Pow! Tu peux mettre la prochaine. Hop, tu dois cliquer juste sur le petit clic. Si quelqu'un peut aider, PowerPoint. Livio. C'est du direct, hein? Vous avez vu? La petite flèche juste à droite. Voici. Hey James, peux-tu enlever le filigrane? Oui, voici. C'est parfait, c'est ça. Quelqu'un que tu envoies, mais ça marche pas. Ok, une deuxième parce que vous aimez ça. Salut James, peux-tu faire en sorte que moi et mon petit ami soyons un peu plus proches sur la photo? La prochaine. Peux-tu faire en sorte que moi et mon petit ami soyons un peu plus proches sur la photo? Oui, bien sûr. Voici ce qui se passe. Voici la photo donnée. Quelqu'un qui comprend vraiment pas ce que tu lui demandes. Troisième et dernière, ok, juste pour vous. Salut James, tu mets la prochaine. Salut James, comment vas-tu? J'aurais aimé avoir de l'aide avec mes photos de mariage. On a pris des photos, mais on a oublié une chose, les masques. J'aurais voulu une photo de nous avec des masques pour qu'on se souvienne qu'on s'est mariés durant la COVID. Ok, demande légitime si tu veux un souvenir assez cocasse. Voici ce qu'il lui donne. Pam! Quelqu'un à qui tu poses des questions, tu demandes de l'aide, mais en fait, il ne comprend pas du tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu poses une question à quelqu'un et puis il te donne une réponse complètement à côté de la plaque. Il faut pas que ça arrive dans l'église. Et si tu veux pas que ça arrive, il y a un groupe qui est là de personnes qui sont matures spirituellement, qui avancent ensemble, qui comprennent la parole. Il y a des coachs de groupe, il y a des gens qui sont là, qui ont autorité par l'église pour pouvoir accompagner des gens dans leur marche spirituelle. Si tu as des questions en ce moment, si tu lis ta parole et que tu dis, oh, il y a des choses que je comprends pas, il y a même des choses, on dirait que ça fait pas de sens aujourd'hui. Il faut que tu puisses poser tes questions. À qui poses-tu tes questions en ce moment? Si tu me dis personne, c'est que Dieu te dit par ma bouche, tu as besoin de quelqu'un. Et c'est pas, oui, mais je vais venir voir le pasteur à chaque dimanche. On peut le faire. On peut prendre un 2, 3, 4, 5 minutes si tu veux. On peut même prendre un rendez-vous dans le bureau si jamais tu as besoin des questions. Oui, mais ça va être ponctuel. Il faut que tu puisses être entouré de personnes qui marchent avec toi semaine après semaine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a, tu peux avoir 100 conversations banales autour de toi, à la job, avec le voisinage, sur le sport, sur la météo, sur les élections, sur plein de choses qui peuvent être, oui, importantes. Mais à qui poses-tu tes questions spirituelles? À qui poses-tu tes questions où tu dis, garde, il y a ça que je ne comprends pas, peux-tu m'aider? Dieu veut que tu marches avec quelqu'un et il veut en fait que tu marches avec un groupe. Fais un pas de foi aujourd'hui, inscris-toi dans un groupe parce que il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine de groupes à Nouvelle Vie La Prairie, plus de 160 à Nouvelle Vie Globale. Il y a des gens dans l'international de Chine, je pense, qui nous demandent, est-ce que je peux faire partie d'un groupe en ce moment? Les gens recherchent à être bien entouré. Ici, vous avez le privilège d'avoir ça autour de vous. Dans des quartiers, peut-être, il y aura des groupes en Zoom pour cette session, pour ceux qui sont encore pas prêts de revenir en présentiel. Il y a d'autres groupes qui sont en présentiel. Il y a plein de groupes, même si tu dis, mais j'ai envie de commencer un groupe, peut-être avec des gars, faire du sport, mais en même temps s'encourager, lire la parole, se défier. Si tu veux le faire, tu as la possibilité de le faire. Nous, on n'est pas une église à dire, oui, les groupes, c'est de côté, c'est un département. En fait, les groupes Nouvelle Vie sont en fait l'église Nouvelle Vie. Il y a une grande célébration le dimanche et on veut qu'on soit de plus en plus nombreux, mais il y a un petit nombre qui se réunit ensemble pour communier ensemble. Célébrer en grand nombre, communier en petit nombre. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est là? Voici la troisième, j'en ai quatre, voici la troisième raison pourquoi l'Église doit rétrécir, pour que tu sois soutenu. On vit tous des moments difficiles, on a tous besoin de quelqu'un à côté de nous. Je vous le dis parce que c'est encore cette semaine. Je prêche les groupes à chaque fois, chaque année je prêche les groupes, je dis il faut que tu aies un groupe, mais souvent il y a des gens qui m'écrivent, que je rencontre et puis que je suis heureux de rencontrer. Et à chaque fois je leur dis, est-ce que tu es dans un groupe? Non, regarde, je ne penserai pas. Et quand ils passent un moment difficile, c'est à ce moment-là qu'ils disent, regarde, j'aurais dû commencer. J'aurais dû vraiment, il y a un an, avoir quelqu'un, parce que peut-être que je ne serais pas dans la situation que j'ai là si j'avais été soutenu avant. N'attends pas d'être dans la crise pour pouvoir faire appel à quelqu'un. Bâtis-toi une communauté quand tu vas bien, parce que le malheur, à un moment donné, va te toucher. Puis ce n'est pas une prophétie de malheur. En fait, il fait beau et il pleut sur les bons, sur les justes, sur les injustes. Il y a un côté où nous vivons tous une vie qui est difficile, mais Dieu est bon. Et comment Dieu montre sa bonté, c'est qu'il veut que tu sois entouré de gens qui te protègent, qui te soutiennent. On a tous été ici à un moment de notre vie où on a eu besoin des gens autour de nous. Mais peut-être qu'en ce moment, tu dis, ouais, mais j'ai pas besoin de personne. Mais en ce moment, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Si tu es fort aujourd'hui, c'est pour que tu sois fort pour quelqu'un. Si tu es faible aujourd'hui, t'inquiète pas, il y a quelqu'un de fort autour de toi. Et l'Église, ici, le dimanche matin, est pour proclamer la liberté en Christ. Mais il faut que tu la vives à travers des groupes. Il faut que tu sois soutenu. Il persévérait dans les prières. Qui prie pour toi aujourd'hui? Verset 44, il mettait tout en commun, partageait tout en fonction des besoins. C'est pas, je suis pas en train de dire, ah, regarde, les Actes, ils ont vendu toute leur maison, ils sont venus. Non, il y avait un mouvement à ce moment-là pour l'expansion de l'Église. C'est le seul moment où on voit que tout le monde vendait tout et mettait tout en commun. Il y a un côté où aujourd'hui, dans l'Église qu'on vit en ce moment, ce principe-là est vrai dans le sens où s'il y a quelqu'un à côté de toi qui a besoin, mets ce que tu as en commun avec les autres pour faire appel à lui. Combien de témoignages, encore cette semaine, je lisais, des groupes qui envoient à Hélène et Jacques le côté « voici un témoignage qui s'est passé ». Des gens qui ont vécu des cancers, ils ont appris qu'ils avaient un cancer, et avec leur groupe, ils ont commencé à prier, à intercéder. À un moment donné, il y a même une femme de notre église qui explique, j'avais au travers du cancer, des traitements et tout ça, j'avais parlé de ma perte de vue à mon groupe de prière. Et eux aussi avaient intercédé auprès de l'Éternel. Ils ont été mon pilier. Je n'ai même pas de mots pour décrire ce qu'ils ont fait. Dieu seul leur rendra. Aujourd'hui, elle est en rémission, elle est guérie, elle nous a envoyé ce témoignage hier. Elle dit merci à l'Église, merci. Merci pour les prédications parce que ça les a fortifiés. Mais merci pour le groupe qui l'a accompagné. Est-ce qu'on peut remercier notre Dieu qui prend soin de nous? À chacun. J'aime cette citation de Rick Warren qui dit que je peux vraiment me comprendre ce qu'il vit. Une fois que les gens sont dans un petit groupe, j'arrête de m'inquiéter pour eux parce que je sais que leurs besoins vont être pris en charge. À chaque fois que je rencontre quelqu'un et qu'il me parle une situation qui est difficile, je prie avec, il y a une équipe de prière. À chaque fois que vous venez à l'église le dimanche, il y a une équipe de prière ici. On veut prier avec vous. Ne repartez pas si vous avez besoin de prière, s'il vous plaît. Mais alors qu'on fait une prière ici, il faut que vous soyez accompagnés en prière chaque semaine. Et vous n'avez pas forcément besoin d'un pasteur, d'un prédicateur, d'un missionnaire. Non, vous avez besoin de gens comme vous, qui ont la même foi que vous et qui marchent avec vous pour vous soutenir. Parce qu'il y a quelque chose de fort quand le peuple s'assemble. Moi, quand quelqu'un vient me dire, voici la situation que je vis tout de suite, ma première question, c'est, est-ce que tu es bien entouré? Oui, je suis dans un groupe et puis voici, puis je leur ai déjà parlé de ça et puis ils me prient pour moi. Je suis tellement rassuré parce que je le sais qu'ils vont être pris dans un contexte qui va être sain. Est-ce que ça va être un groupe parfait? Non, il n'y en a aucun. Mais d'être entouré par des gens qui font, eux, confiance à un Dieu qui est parfait, là, ça change toute la situation. Soutenu, est-ce que aussi tu es soutenu, pas seulement quand ça va mal, mais est-ce que tu es soutenu quand tu fais des transitions dans ta vie? Quand tu veux vivre ton rêve, quand tu veux commencer à rentrer dans ton appel, quand il y a une transition de vie, quand tu as un projet, quand tu as quelque chose, as-tu des gens qui peuvent prier pour tes projets en ce moment? As-tu partagé ça avec quelqu'un? Si tu me dis non, c'est que tu as besoin en ce moment de pouvoir avoir des gens autour de toi qui te soutiennent dans tes transitions. Que quand tu te dis, j'ai l'impression que Dieu m'appelle à ça, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et que pendant des semaines, les gens persévèrent dans la prière. Persévère pour toi en disant ton combat est mon combat. Est-ce qu'en ce moment tu combats seul? Parce que si Dieu nous a donné l'Église, si Dieu nous a donné le Nouveau Testament, si Dieu nous a montré comment dans les Actes l'Église grandissait et se rétrécissait, c'est que tu as besoin de faire partie d'une grande célébration, mais aussi d'un petit groupe qui marche avec toi. Est-ce que je peux entendre amen? Voici un graphique, alors que les musiciens vont me rejoindre. Voici un graphique de comment on peut voir au niveau du nombre de personnes. Le dimanche, c'est la grande célébration. Le dimanche, c'est c'est la grande célébration. On sera jamais trop nombreux, réellement. Et au plus il y a de monde, au plus ça chante fort, au plus il y a les enfants qui sont là, au plus on peut proclamer la bonne nouvelle de l'évangile et se dire, hey, on n'est pas seul. Mais voici ensuite, on passe au deuxième stade. Ensuite, c'est l'implication. Là, ça commence à réduire. Et là, tu commences à connaître des gens qui servent avec toi à l'église ou dans les œuvres humanitaires ou les choses qui se passent ou avec le retour à l'école quand on est allé toi avec le staff, avec les gens bénévoles ici. J'étais content de le voir. On voit qu'on commence à connecter de plus en plus. Ensuite, la troisième, c'est la connexion. Quand tu commences à t'asseoir avec les gens, parler avec eux, faire un partenariat avec eux en disant, ben, on va avancer en groupe ensemble. On va faire un groupe et on va avancer ensemble. Quatrième, c'est la redevabilité. La redevabilité, on va le voir, parce que c'est quelque chose qui t'empêche de tomber quand il y a une difficulté devant toi. Et la dernière, la communion avec Dieu. Ça, c'est juste toi et Dieu. Le niveau où tu ne peux pas juste dire « Ah, moi, ma communion avec Dieu, c'est dans la grande célébration le dimanche. » Non, non, non. À chaque fois, tu as besoin de comprendre qu'il y a une révélation différente, mais que tu as besoin d'avoir des gens de plus en plus dans la grande assemblée, avec plein de monde, mais aussi avec un petit nombre de personnes dans la maison. J'ai parlé pour que tu sois redevable. C'est mon quatrième et dernier point. Voici pourquoi l'Église doit rétrécir pour que tu sois redevable. Être redevable, c'est avoir des gens qui t'empêchent de tomber. C'est avoir des gens à qui tu peux parler de des choses qui sont difficiles. Et je vous le dis, alors que ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai ce principe-là dans ma vie de redevabilité, c'est fort parce que Je me suis donné avec selon la parole de Dieu des gens autour de moi qui peuvent vraiment me poser des questions difficiles. Comment vas-tu Ben en ce moment? Vous savez, on répond tous à des gens quand on les voit dans la rue au IGA. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien et vous? Tu commences pas à raconter ta vie au IGA, vrai ou pas? Il y a des gens qui oui. Je trouve que c'est une très bonne place au milieu des salades. Et voilà, justement, tu me poses la question. Voilà, t'as 2 heures? Non. Mais il y a quelque chose de fort parce que as-tu des personnes qui peuvent réellement te poser la question? Et aller plus loin que « ouais, ouais, ça va en ce moment, c'est bon ». Non, as-tu quelqu'un qui peut aller au-dessus en disant « non, mais est-ce que ça va en ce moment? J'ai l'impression que ça ne va pas ». Tu peux me le dire, je suis quelqu'un de confiance. On ne dit pas ça à n'importe qui. Puis en fait, je ne vous le conseille pas. Et même des fois à l'église le dimanche matin, je ne vous conseille pas. Si tu ne connais pas la personne, ben garde une certaine… Garde, prie pour moi pour ça. Mais Dieu ne veut pas que tu restes éloigné puis que… Non, au contraire. Si tu vis quelque chose, tu dois le partager. Il y a vraiment un principe biblique où tu dois, même Jésus à Gethsémané, a pris les gens autour de lui, a dit, venez avec moi, venez prier avec moi. C'est l'heure la plus sombre de la vie de Jésus à ce moment-là. Mais il emmène quelqu'un. Donc ne reste pas seul dans ton problème. Au contraire, va avec des gens en parler. Mais il faut que tu connaisses ces gens-là et que ces gens-là te connaissent et que l'Église connaisse ces gens-là et reconnaisse ces gens-là. C'est pour ça que les groupes sont structurés. Il y a quelque chose de sain dans le côté où on veut prendre soin du troupeau. Il y a comme un côté où nous sommes tous ici, nous venons tous comme étant des brebis devant Dieu, mais Dieu nous donne de marcher avec un groupe pour qu'on puisse être connu, reconnu. Être redevable, c'est que quelqu'un puisse te poser les questions difficiles qui t'empêchent de tomber. Vous savez que 71% des chrétiens qui quittent la foi, c'est une statistique aujourd'hui, 71% des chrétiens qui quittent la foi le font progressivement. Ce n'est pas dire qu'ils ne viennent plus à l'église, non, c'est juste qu'ils n'ont plus personne à qui parler. Ils n'ont personne qui leur pose la question. Hey, comment ça va en ce moment? Depuis 10 ans, avec Pasteur Emmanuel Hippolyte, je fais la redevabilité. Et réellement, c'est quelque chose qu'on a mis en place toutes les 2 semaines ou 3 semaines. On se pose des questions qui sont lettres ouvertes, livres ouverts. Vous me poseriez ces questions? Je vous dirais, ça ne te regarde pas. Mais à mon partenaire, à mon groupe, à des hommes que je sais qu'ils sont, qui sont des hommes matures dans la foi, qui vont m'encourager, qui ne vont pas me juger, c'est quelque chose qui me bénit à chaque fois. Est-ce que ça fait du bien de se faire poser des questions difficiles? Non. Mais heureusement qu'ils le font. Parce que je vous le dis, je ne serais pas qui je suis sans eux. Oui, mais tu connais Jésus, tu connais la parole, bien sûr. Et l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a des gens, des fois, qui me disent hey, « Non, fais attention à comment tu parles en ce moment. » Il y a plus de jalousie qui parle dans ton cœur que de prière pour ces gens-là. As-tu quelqu'un qui te dit « En ce moment, j'ai l'impression que tu es jaloux de quelqu'un. » Ouf, pour qui tu te prends? Non, pose-moi encore ces questions. Ça fait mal, mais c'est la guérison qui prend place. As-tu des personnes en ce moment qui prennent soin de toi, semaine après semaine, qui te voient marcher, qui te voient grandir et qui te célèbrent, ou qui te voient tomber et qui te relèvent? Si tu n'as pas ces gens-là, Dieu aujourd'hui te dit, tu en as besoin. ne te suffit pas du dimanche matin, même si c'est incroyable et on va le développer encore plus. Quelque chose de fort qui se passe en ce moment. Et je vous le dis, ne vous suffisez pas du dimanche matin quand vous pourriez avoir quelque chose où Dieu parle à travers sa parole, la prière, quand vous vous unissez ensemble. Et vous dites, ok, voici, notre frère ici ou notre sœur vit quelque chose de difficile. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Il a perdu son emploi. Est-ce qu'on pourrait lui faire la nourriture parce qu'ils ont plusieurs enfants et puis en ce moment, sa femme doit travailler deux jobs. Est-ce qu'on pourrait les soutenir? Est-ce que c'est ça mettre en commun? C'est ça avancer ensemble? C'est pas juste se dire, à la semaine prochaine, on se voit. T'as des problèmes, moi aussi. Bon, ben, allez, bye. Non, non. T'as des problèmes, moi aussi, mais on va se tenir ensemble. Tu vas combattre pour moi, moi je vais combattre pour toi parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui veut nous détruire. Et ça se passe dans le groupe. Aujourd'hui, si tu te poses la question, est-ce que je suis bien entouré? Si ta réponse est non, je te dis aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, c'est que dans l'église, tu peux l'être. Ne recherche pas juste des gens cool. Ah, mais moi, je vais t'entourer avec un groupe de tel. Non, tu n'as pas besoin de gens cool dans ta marche chrétienne, tu as besoin de gens solides. Les gens dans ton groupe ne vont peut-être pas être les gens les plus cool avec qui tu pourras prendre des selfies tout le temps en disant, oh, regardez ma gang. Non, non, peut-être pas. Mais tu auras des gens qui seront solides quand le malheur sera là. Et je nous le dis, hein, on n'est pas juste là pour recevoir, on est là pour donner. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui sont matures, qui pourraient tellement donner, qui pourraient témoigner, qui pourraient tellement prier, faire une différence dans la vie des autres, mais vous restez seuls en disant, regarde, ils n'ont pas besoin de moi. Le corps a besoin de toi. Si une main est coupée, à quoi elle sert? Il faut qu'elle soit avec le corps. Tu as besoin de quelqu'un en ce moment. Laisse l'orgueil de côté. Laisse le timing de dire, ah, mais je ne pourrais pas aller au gym un soir semaine. T'inquiète pas. Tu as plus besoin d'être dans le gym spirituel que dans ton gym physique, n'est-ce pas? Puis si tu ne vas pas au gym, tu as encore 6 autres soirs. Mais il y a quelque chose de fort dans le côté où on s'assemble ensemble. Parce que la vie est plus forte ensemble. Jacques 5, 16 dit, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il n'a pas dit, confessez vos péchés à Dieu, vous serez guéris. Non. Confessez vos péchés à Dieu et on reçoit le pardon de nos péchés. Mais Dieu envoie la guérison lorsqu'on s'assemble ensemble, lorsqu'on parle ensemble, lorsqu'on prie ensemble. Dieu pourrait le faire sans nous, mais il a décidé de le faire avec nous. Quelle grâce, n'est-ce pas? Alors que je vais terminer, je vais demander à l'équipe de venir qui va représenter mon petit groupe. Ensuite, on va à la prière et à la communion. Je vais demander aux 5 personnes qui sont là, qui vont comme représenter mon petit groupe. Chaque semaine, je me rencontre avec eux et eux prient pour moi. Ils vont être, je vais être à l'intérieur du groupe. Tiens Sophie, mets-toi ici devant moi, comme ça on pourra me voir. Oui, il y a un côté logistique où elle est plus petite, mais c'est bon. Et voici mon groupe, ok? Voici mon groupe. Ils me gardent serré. C'est un groupe qui est là. Si j'étais tout seul, je pourrais tomber facilement. Alors attends, je vais illustrer si j'étais tout seul. Ils sont tellement proactifs là. On a pratiqué toute la semaine, je vous le dis. Si j'étais tout seul... Et comme à chaque fois, les gens disent « Ah, oh, tu ne veux pas tomber, Pasteur Ben, sur le... » Non, non, vous inquiétez pas, je connais le stage. Mais imaginons que j'étais tout seul, personne ne me retiendrait. Si je marche tout seul, je peux marcher bien longtemps, mais à un moment donné, je peux être fatigué. Qui me retient quand je tombe? Qui, quand je trébuche, me retient? Si je suis à l'intérieur d'un groupe, peu importe si la vie est difficile, quand j'essaye de marcher et puis que je trébuche, oh, le groupe me retient. Puis le groupe avance et puis on avance tous. Et puis... Mais à un moment donné, la vie est difficile, je commence à douter. Et quand je doute, ben, je me laisse juste aller. Et puis, je voudrais tomber, mais le groupe me retient. Quand je veux même juste quitter, ben, c'est trop compliqué. Je suis tellement d'affaires dans mon couple en ce moment, je veux juste vivre ma vie. Mais là, il y a quelqu'un qui me confronte et qui me dit, est-ce que c'est réellement ça que tu veux? Ne sacrifie pas ce que tu veux vraiment pour ce que tu veux maintenant, Ben. Arrête! Non! C'est pas juste quitte et puis, il y en a une autre. Non, 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 Dieu, il y a une alliance comme ça. Non, arrête! Il y a un groupe qui me garde redevable, qui me garde serré. Et ils le font vraiment bien. Ils me brassent. Mais c'est ça qu'on a besoin. Est-ce qu'on peut applaudir nos groupes, s'il vous plaît? La délivrance sur le pattern que tu attends depuis des années, peut-être que Dieu l'a décidé que ce soit dans un groupe que tu l'auras. Quand tu vas commencer à confesser à haute voix que l'ennemi te tient lié par cette... Et puis à un moment donné, quelqu'un va dire, « Hey, bonne nouvelle, je suis passé par là. Ça fait 10 ans que je suis sobre. Wow! Mais comment t'as fait? Voici comment j'ai fait. » Et puis, c'est pas par magie, c'est juste miraculeux. Quand un groupe se rassemble et qu'il avance ensemble, il y a quelque chose de fort. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on ferme les yeux alors que je vais faire un appel avant d'aller à la communion. Et mon message est simple, mais il est pratique. Si nous voulons ressembler à Jésus, nous devons faire et dire ce que Jésus faisait. Si nous voulons vivre une église comme dans les Actes des Apôtres, sous le modèle biblique, nous devons faire ce que l'église faisait dans le niveau biblique. Le but de l'église n'est pas d'avoir beaucoup de monde le dimanche. Non, mais de former des disciples solides chaque jour de la semaine. Les groupes ont besoin des célébrations du dimanche et les célébrations du dimanche ont besoin des groupes. Il y a un équilibre qui est là et que Dieu a fait en sorte pour que ça fonctionne. Qui Dieu veut bénir à travers toi? Comment Dieu veut te parler à travers quelqu'un? Ça va être dans un groupe. Jésus a pris son groupe à Gethsémané, quelques heures avant d'aller à la croix. Et c'est même pour ça qu'on va prendre la communion dans quelques instants. Et alors que Jésus, alors qu'il est, il sait qu'il vit ses derniers moments, il y a un choix qui est là. Et alors qu'il avait, il avait des centaines de personnes qu'il suivait, il y avait des foules partout quand Jésus allait. Lorsqu'il a vécu son moment le plus difficile sur cette terre, quelques heures avant de décider d'aller à la croix, il y avait une décision à ce moment-là. Il a pris ses trois, les trois les plus proches de lui, son petit groupe sans doute avec qui il devait vraiment partager ses émotions. Jésus était 100% Dieu, mais il était 100% homme. Et dans son humanité, il a choisi de partager ses émotions avec les gens autour de lui. Ce n'était pas juste une formation pour eux, c'était un côté où « prier avec moi, prier pour ne pas entrer en tentation, prier parce que l'heure est arrivée. » Et Jésus a eu un choix à ce moment-là. Est-ce que je fais ma volonté, qui est d'éviter la croix, ou est-ce que non, en fait, je fais la volonté du Père et je vais à la croix. Et Dieu merci, il a été à la croix. Merci parce que Jésus a été avec toute sa volonté en disant « Maintenant, j'accomplis ma mission. » Et aujourd'hui, on peut vivre, nous, le rêve que Jésus avait pour l'humanité, d'être sauvé, racheté par la croix, mais aussi de vivre ensemble ce que Dieu veut qu'on vive ensemble, d'être la lumière du monde, de ne pas être seulement, juste seul dans cette vie, non, d'être accompagné avec des gens. Tu as besoin en ce moment de gens autour de toi. Mais j'aimerais poser la question peut-être à quelqu'un en ce moment qui est là et qui dit, j'aimerais m'avancer, puis j'aimerais demander pardon à Jésus pour des choses que j'ai faites, pour des péchés que j'ai depuis longtemps. Et puis il y a ça sur mon cœur, et puis j'ai l'impression que dans cette salle ici, c'est comme un lieu refuge, un lieu de paix, un lieu de calme où je ne me sens pas jugé, mais je me sens invité à venir à la croix. Parce que si Jésus a été à la croix, c'est pour que tu puisses t'approcher de Dieu, tranquillement, sans avoir peur de sa condamnation, non. Mais en le remerciant pour sa grâce. Parce qu'il a pris le prix que tu devais payer et il t'a donné la vie que tu ne pouvais jamais avoir. Il t'a pardonné de tes péchés. Et aujourd'hui, si tu viens avec un cœur repentant, Jésus te pardonne. Alors dans ton cœur, en ce moment, si c'est ton cas, fais juste dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon et je te remercie parce que tu as été à la croix. Je devais être loin de Dieu, perdu dans mes péchés, mais toi, t'es venu et t'as pris ma place. Et tu m'as donné ta place. Je peux maintenant dire que je suis enfant de Dieu. Si je reconnais Jésus comme sauveur et comme mon Seigneur, ben, je suis enfant de Dieu. Alors Seigneur, j'accepte ton pardon. Je te remercie pour ta grâce. Et je veux vivre selon ta volonté. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble alors qu'on va prendre la communion ensemble? Et lorsqu'on parle de l'Église, on parle de gens bien différents parfois. On est tous différents ici, mais ce qui nous unit et ce qui nous rapproche, c'est la croix de Christ. Peu importe le passé, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe qui nous sommes, peu importe d'où l'on vient sur la terre, ce qui nous ramène ensemble, unis, c'est la croix de Jésus-Christ. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre le pain ensemble. Et alors que je vais lire ce que l'apôtre Paul a écrit en 1 Corinthiens 11, 23. Qu'on ne puisse pas le prendre par habitude, mais qu'on puisse vraiment revenir à la croix en disant, Seigneur, merci. Parce que tu nous as réconciliés avec le Père, mais tu nous as donné des frères et sœurs. Alors que la croix nous a fait devenir enfants de Dieu, la croix nous a fait devenir également frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, regardons l'Église comme Jésus regarde l'Église. Ne regarde pas l'Église en disant, moi je suis seul, perdu dans la foule. Non, Jésus veut te mettre avec une famille autour de toi pour te faire avancer, pour que tu fasses avancer les autres. Alors qu'on puisse prendre la communion aujourd'hui en nous rappelant que Jésus-Christ a payé pour que nous puissions avoir et profiter. 1 Corinthiens 11, 23 dit « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Mangeons ensemble. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Buvons ensemble. Seigneur, merci pour ton corps qui a été brisé sur la croix. Merci pour ton sang qui a été versé. Seigneur, ta mort est en fait le signe de l'amour pour nous. On veut juste te dire merci, Seigneur. Merci pour la croix. Merci parce qu'on est libre du péché. Merci parce qu'on est libre de la mort. Seigneur, il n'y a rien dans ce monde qui pourra nous séparer de ton amour et c'est ce qu'on veut proclamer ici. Seigneur, merci pour la famille. Merci pour l'Église. Merci pour ton épouse que tu vois belle. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avancer encore plus, Seigneur Jésus, dans ce que tu veux pour nous. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies et dans notre Église, pour notre pays, pour nos villes, pour cette francophonie. Que ton nom soit glorifié, tout le monde dit. Amen. Est-ce qu'on peut chanter un chant avant de quitter et donner la gloire à Dieu de manière solennelle?